Décryptualité, semaine 1 de l'année 2021. Salut Manu.
Salut Luc, on se souhaite bonne année ?
Moi j'ai arrêté parce que l'année dernière ça n'a pas bien marché, donc je veux pas recommencer cette année.
Ah puis on a une année qui commence en force, hein. A priori ça va être une super année là.
C'est ça. Chose. Bah, l'année commence en termes de revue de presse plutôt tranquillement, on a 4 articles, c'est ça ?
Bon, un qui date de l'année dernière, mais bon, je l'avais pas remonté, il était tout seul. Hein.
RTL, polémique WhatsApp, comment utiliser Signal, l'application la plus téléchargée du moment, un article de Benjamin Huet.
Alors, polémique, faut voir, mais effectivement, ils ont changé leurs conditions d'utilisation.
Oui, ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas quand...
qu'ils avaient promis.
Voilà, quand WhatsApp avait été racheté, c'était non, on va pas tout mixer avec Facebook, hein, puisque WhatsApp appartient à Facebook. Et ben là, c'est fait, ils ont dit, bon allez, maintenant on va collecter tout autant de données que sur l'appli Facebook, c'est-à-dire énormément. Puis on va croiser tout ça parce qu'on n'en a rien à foutre.
Et puis qu'on peut, parce que techniquement, oui. Bah, Facebook, ils ont les capacités et on a le désir de le faire parce qu'il y a plein d'argent qui peut tomber de ce genre de changement. Mais pour le coup, il y a plein de gens qui parlent de Signal,
oui.
Une application concurrente et surtout libre.
Et notamment Elon Musk, l'homme le plus riche du monde,
oui.
Qui a dit utiliser Signal parce qu'effectivement, ces changements sur WhatsApp, enfin, un peu fâché. Comme quoi, si nous, on veut faire la promotion de l'informatique libre, j'ai trouvé la solution.
Être l'homme le plus riche du monde.
Voilà, comme ça, les gens vont nous écouter. Et c'est con, hein, j'aurais dû commencer il y a longtemps. Mais on va en parler plus en détail dans notre sujet du jour. ZDNet France, un spécialiste de l'open source nommé directeur de la technologie à la Maison Blanche. Un article de Stephen J. Vaughan Nichols.
C'est un personnage intéressant, David Ricordon. J'espère qu'on prononce comme ça. Mais ce qui est vachement intéressant, je trouve, c'est que certes, il a fait et il fait beaucoup d'open source, de logiciels libres, mais il l'a fait dans le contexte de Facebook. Donc ça reste un peu énervant. Donc d'un côté, c'est un libriste, vraisemblablement, en tout cas un open sourciste.
Un open sourciste,
mais il n'y a pas trop de doute là-dessus, mais c'est un gars qui sort d'une entreprise un peu en problème.
Oui.
Donc on est gêné.
Next Impact, le Digital Service Act expliqué ligne par ligne, un article de Marc Ress.
Alors, le Digital Services Act, c'est un truc européen qui est en train d'être élaboré en ce moment. Donc, ils ont publié des premiers morceaux. Et effectivement, ça devrait permettre de contrôler ou de changer un peu les règles sur Internet, sur les réseaux sociaux, les grosses entreprises.
On a commencé à l'évoquer avant les vacances. Oui.
Et là aussi, je pense que ça va être un gros sujet de l'année 2021. Un troll, sûrement, parce que, bah oui, hein, quand les hommes politiques s'emparent de la technologie, ça se passe mal en général.
Et donc, le quatrième article... Le MagIT Open Data, l'avance prise par la France ne tient qu'à un fil, un article de Gaëtan Raoul.
Alors, l'open data, c'est le fait que les données, notamment des administrations, mais en gros de toutes les collectivités et de tout ce qui touche aux citoyens, bah, soient publiques, publiées, utilisables, réutilisables par tout un chacun. C'est quelque chose d'assez novateur, hein, une nouvelle approche, et ça permet normalement d'innover, d'utiliser mieux et de manière plus riche toutes les informations dont on peut avoir utilité dans la sphère citoyenne. Donc c'est plutôt sympa. Et oui, effectivement, la France était plutôt en avance sur l'open data.
Mais pas tant que ça, manifestement.
Bah, en tout cas, c'est compliqué parce que une avance, ça se perd. Et donc, il faut faire attention et continuer à faire beaucoup d'open data en France. Alors, le sujet du jour et le sujet du moment de l'année,
la semaine,
sûrement.
Oui. On va encore parler de réseaux sociaux.
Oui, la chute des réseaux sociaux, l'avancée des réseaux sociaux, comment on peut...
Je sais pas, le gros merdier des réseaux sociaux,
oui.
Parce que ce démarrage 2021 en trombe, on sentait de venir depuis longtemps, c'est pour ça qu'on en parle régulièrement, mais remet ce sujet-là au centre, il se passe énormément de choses de différentes façons qui font que ce modèle réseaux sociaux est aujourd'hui mis en cause de plusieurs façons. Donc nous, ça nous fait quand même plaisir parce qu'on fait partie de ces gens qui disent que c'est quand même de la merde depuis un paquet d'années.
C'est problématique au minimum, hein, c'est voilà. Clair. Et donc quand tu dis les réseaux sociaux, t'entends notamment Twitter, Facebook.
Oui, alors évidemment les réseaux sociaux, des GAFAM, ceux qui exploitent les données des gens et
qui les enferment.
Et qui les enferment, effectivement. Donc il y a l'affaire WhatsApp Signal, donc WhatsApp appartenant à Facebook et qui va étendre toutes les données qui vont être collectées, etc. Et donc d'utiliser une appli libre qui s'appelle Signal et qui fait sensiblement la même chose.
C'est pas la seule appli, hein. Y en a d'autres, plein. Moi j'utilise aussi Silence, y a Telegram, alors c'est le client qui est libre, c'est pas le serveur, si j'ai bien compris. Et puis y en a d'autres qui sont plus ou moins bien à chaque fois, il faut les tester et les utiliser et partir de...
Alors en fait, Signal et Telegram ont quand même effectivement cette réputation de très bien marcher. Silence c'est plus pour gérer des SMS. Hein,
oui. De manière chiffrée, ça reste intéressant.
Tout à fait. Donc les réseaux sociaux, hein, si on résume un petit peu toutes les attaques qu'il y a, donc il y a eu cette partie d'exploitation des données des gens, le fait de distribuer ces données à n'importe qui. Facebook s'est distingué là-dessus ces dernières années. On a eu des données de dizaines de millions de gens qui ont été distribuées à peu près à n'importe qui.
Ça a été utilisé de manière alors plus ou moins légale par Cambridge Analytica, notamment, pour permettre des élections et des votes problématiques, hein, le Brexit et l'élection de Donald Trump.
Et avec ces discussions avec des gens qui disent que ça n'a pas eu tant d'effet que ça, d'autres qui disent que peut-être que si. J'ai vu un petit jeu sur une théorie de comment on arrive à changer les gens. C'est-à-dire que si on a un réseau de gens, et qu'une personne va être confrontée dans son entourage à X% de personnes qui pensent dans un certain sens, ou qui par exemple ont une habitude de consommation, on arrive, semble-t-il, c'est une théorie, et il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, en fonction de la difficulté, bien sûr, hein. Mais si on est cerné par des gens qui ont un comportement, on va avoir tendance à adopter ce comportement. Et du coup, on comprend super bien avec cette théorie-là l'intérêt d'un Facebook qui connaît très bien les relations entre les gens, en se disant, si je veux pousser, par exemple, un truc commercial ou une opinion, bien, je sais sur qui il faut que je mette le paquet, parce que en connaissant les uns et les autres, je me dis, telle personne, elle va être une personne clé parce qu'elle connaît beaucoup de monde, et si j'arrive à la convaincre, elle, plus quelques autres, en mettant des efforts ciblés sur un nombre limité de personnes, je peux avoir beaucoup d'influence.
Et on peut convaincre ces influenceurs, parce que c'est souvent le terme qui est utilisé, de plein de manières. La plus simple, c'est de les payer, mais pas que, il y a pas mal de façons les opinions des influenceurs.
Il y a des influenceurs qui sont des professionnels et qui font leur business, c'est ce dont on parle, mais il y a des gens après qui sont communicatifs, qui sont des références pour les gens autour d'eux. Donc ça, c'est un premier point sur le pouvoir de ces réseaux sociaux qui reste super fort et d'autant plus inquiétant que toutes ces données sont captées et privatisées.
Et puis on a parlé de plein d'autres manières dont les réseaux sociaux sont pourris. Ils peuvent aider à transmettre des mauvaises informations de manière assez aisée en utilisant les influenceurs, mais pas que, en utilisant aussi cet effet de chambre d'écho, la bulle d'information qui fait qu'on est rarement confronté dans ces réseaux à des opinions contraires aux siennes.
Oui, et sur le fait qu'il y a les fameuses fake news, donc il y a quelques années, notamment lors de l'élection de Trump et du Brexit, où on dit « Oh là là là, il y a plein de fake news » et tous les GAFAM avaient dit « Non, non, mais c'est bon, on va faire plein de trucs contre les fake news », les dernières études montrent qu'il y en a encore plus qu'à l'époque. Donc, ça a empiré, et on l'avait dit abondamment qu'ils n'arriveraient jamais à contrôler ce truc-là, parce qu'on ne peut pas contrôler ça par des systèmes automatiques, et que évidemment ils n'ont pas les moyens de mettre des humains suffisamment intelligents et renseignés pour faire la différence derrière chacune des publications qui passent sur Internet.
Et donc là, si on en parle, et si on parle de cette année 2021 dans d'aussi forts termes, c'est notamment là que ça percole. Trump, il a utilisé Twitter, il a utilisé Facebook pour diffuser beaucoup d'informations, essayer de faire ce qui est une tentative de coup d'État, alors un ploche, une sorte de coup d'État auto-administré à la Napoléon III, faut pas oublier que c'est déjà arrivé, que ça a déjà réussi. Bon, il est probablement un peu nul à sa manière, il avait peut-être pas ciblé d'aller aussi loin.
Je pense qu'on a la chance que Trump soit un gros feignant et qu'il a deux neurones. Enfin, il réussit à semer le bordel dans une logique pré-totalitaire. Un jour qu'on parle d'Anna Arendt et des origines du totalitarisme, c'est une lecture très utile. Mais bon, selon moi, il n'y avait pas de gros risque parce que Trump reste un gros naze.
Oui, mais il avait réussi par ses tweets, par ses propos, à influencer suffisamment de personnes qui étaient venues avec des armes, des bombes, des cocktails Molotov et des outils pour restreindre les sénateurs et députés qui étaient là. Tu sais, les espèces de menottes en plastique qu'on utilise à l'armée. Il y a des gars qui se pointaient avec ça et qui, donc, quelque part, avaient bien dans l'idée, dans la tête, de prendre en otage le Capitole.
C'était symbolique.
Oui, oui, oui. Et puis, le truc à l'extérieur qui était attaché en haut d'une potence avec un petit nœud coulant, c'était symbolique aussi, effectivement,
ça,
bien
tout
sûr.
Tout à fait.
Mais ça restait quand même perturbant, et vraisemblablement, ça perturbe tout le monde. Et on va encore en parler, parce que ces réseaux sociaux, on sent bien qu'il y a un gros problème, c'est eux qui alimentent le feu.
C'est un problème de médias, et tu avais remonté un article il y a quelques semaines là-dessus, qui disait derrière, il y a des médias traditionnels qui ont mis le feu et alimenté les flammes.
Donc on pense à Fox News, c'est largement eux, parce qu'ils sont beaucoup regardés aux États-Unis.
On a des exemples très classiques, je pense notamment au génocide de Rwanda, dont un des retours est de dire que pendant des années avant que le génocide ne démarre, il y a eu la radio d'Émile Collines qui a transmis, diffusé des messages de haine, d'appel au meurtre.
De déshumanisation.
Tout à fait, et qu'on sait que les médias sociaux, mais pas que, et manifestement il y a des gens qui pensent que, y compris aux États-Unis, c'est pas que les réseaux sociaux qui ont fait la différence. Et on sait que ça change la face du monde et que ça pousse les gens dans une direction ou dans une autre.
Donc aujourd'hui, on a plein d'outils pour contrôler l'information, pour la diffuser...
Pour la contrôler, non.
Alors, pour la contrôler quand on est à la tête de ces outils et quand on peut soi-même la diffuser, quand on veut diffuser son information, tu vois, on a vraiment des porte-voix qui sont gigantesques. mais on n'a pas de manière réaliste, aujourd'hui en tout cas, que ce soit technique ou légale, de bloquer ces porte-voix.
Alors, en plus, ça, c'est un champ de bataille, puisque, en gros, bah, la Russie, on le sait depuis longtemps et maintenant c'est très clair, a une politique très active de déstabilisation de différents pays. Au travers des réseaux sociaux notamment.
Oui, on a parlé, il y avait notamment alors, des fermes de trolls
oui.
Dans différentes banlieues de la Russie où ils faisaient que ça tous les jours, du troll.
Voilà, mais cette semaine par exemple, Marlène Schiappa, notre ministre aux beaux cheveux, a fait une vidéo qui a fait troller parce qu'on lui a reproché d'avoir fait du placement produit. Et après, elle s'est défendue de façon extrêmement maladroite en prétendant que c'était pas elle, mais qu'après que ceci, mais que cela, et en mentant. Et du coup, il y a des journalistes qui ont commencé à regarder qui sont les soutiens de Marlène Schiappa sur Twitter. Et ça ressemble beaucoup à des gens qui travaillent pour elle, qui se sont tous inscrits au même moment, etc. etc.
Et ça, t'aimes pas, hein, parce que tu sens bien qu'il y a une manipulation mais, et une organisation
de fait,
qui est derrière tout ça.
Mais de fait, je pense
ça,
que hein. c'est le truc qu'il faut réussir à rentrer dans la tête des gens avec qui on discute, c'est que les réseaux sociaux sont un champ de bataille et que tout le monde essaye de modifier, de manipuler.
Tout le monde, mais pas la France, rassure-moi.
Eh bien si, parce que comment, c'est un truc quoi, qui est arrivé pendant les vacances. Bah, la France a été mise en cause pour peser sur les réseaux sociaux en Afrique, notamment pour ses combats au Mali et tout autour, contre le djihadisme. Donc, le boulot d'avoir des fermatrolls et des gens qui sont là pour essayer d'orienter les opinions, bah, l'État français le fait également. Et on n'a pas de doute sur le fait que tout le monde aujourd'hui le fait. Et donc, quand on est sur des réseaux sociaux, on est dans une sorte de terrain miné, avec des enjeux géostratégiques, des enjeux commerciaux, parce que bah, les GAFAM, ils veulent continuer à vendre des trucs. Et tout le monde essaye de manipuler tout le monde pour arriver à ses fins.
Alors, il y a quand même un pilier qui permet aux GAFA et aux réseaux sociaux d'exister aujourd'hui. C'est qu'aux États-Unis, mais en Europe aussi, il y a des lois qui leur permettent d'être des hébergeurs neutres. En gros, ils ne prennent pas part et ils ne font que permettre à d'autres personnes de s'exprimer. Et en tant que juste des plateformes neutres, eux-mêmes ne peuvent pas être mis en cause
oui.
par la loi. Et bizarrement, ça ne plaisait pas à la fin à Trump et ça ne plaît pas à Biden qui risque de changer ses lois.
Alors, je pense qu'ils sont arrivés au bout de leur modèle de la liberté d'expression par-dessus tout, en s'apercevant que bah, en fait, ça ne marche pas et que ces sociétés privées ont finalement un pouvoir énorme sur des outils de communication qui deviennent finalement des outils publics. Le fait que Trump, président des États-Unis, finalement communique que par Twitter, c'est un truc complètement incroyable finalement. Ça veut dire que la communication officielle, et de plus en plus d'institutions le font, la communication officielle passe par un réseau privé. Pour moi, ils sont en train de découvrir, dans les questions qui se posent et sur le fait de réguler tout ça, quelque chose qui existe en droit français depuis très longtemps, en droit public, qui est qu'une société privée peut du jour au lendemain se retrouver affublée d'une mission de service public si un tribunal administratif a dit « Ah bah, vous faites ça ?» Bah en fait, ça, c'est une mission de service public. Et la boîte privée dit « Mais moi, j'ai jamais voulu. » On fait « Mais on t'a pas demandé ton avis. On te dit que c'est une mission de service public. » Et du coup, toute société privée que tu sois, tu as maintenant des obligations. Et dans les réseaux sociaux, je pense que ce cheminement chez les Américains qui sont pas du tout dans cette culture-là, ce cheminement est en train de se faire, en train de se dire « Mais en fait, on peut pas laisser l'initiative privée réguler des communications avec l'importance qu'ils ont pris. »
Alors, pour l'instant, je pense que nos hommes politiques en France, pour ce que j'en ai vu, ils ont pris conscience d'une autre chose, mais qui est en lien. C'est que là, Twitter, Facebook, ils ont bloqué le compte de Donald Trump, ce qu'ils font bien hein, de faire, parce que quand même, ce mec, c'est un gros problème. Mais les hommes politiques français, ça les dérange aussi, parce qu'ils se rendent compte que la police d'Internet, ce sont des entreprises privées, et que certes, le mec, il a voulu faire une sorte de coup d'État, on le bloque, ok, pourquoi pas. Mais qu'on le bloque de cette manière-là, c'est-à-dire c'est des entreprises privées qui, en utilisant le droit, leur droit de le faire, bloquent l'homme le plus puissant du monde, bah là, il y a des gens qui se réveillent, qui se rendent compte que bah, c'est quoi ce droit de police phénoménal qu'on a accordé à des entreprises privées,
oui,
effectivement.
Oui. Et il y en a d'autres, hein, et ça fait longtemps, notamment les cartes bancaires. Quand Wikileaks a vraiment déplu aux États-Unis, bah, en gros, Visa, Mastercard et American Express, je crois, on dit, bah, plus personne ne peut payer en carte bancaire Wikileaks. C'est interdit.
Donc les dons étaient bloqués du jour au lendemain, les sommes qui étaient probablement en cours étaient bloquées.
Voilà.
Et effectivement, bonne chance pour faire d'autres paiements internationaux.
Il n'y a aucune décision judiciaire qui leur a permis de faire ça. C'était
ce
juste
sont des entreprises privées.
Voilà, c'est ça.
Ils ont le droit, en tant qu'entreprise privée, de choisir avec qui ils travaillent, dans une certaine mesure.
Mais de fait, quand on possède un réseau de ce type-là, et qu'il n'y en a pas beaucoup, et que ce n'est pas évident, parce qu'on ne va pas créer un réseau de cartes bancaires du jour au lendemain comme ça, eh ben, de fait, il y a une logique service public qui fait que ces sociétés privées ne devraient pas avoir tout droit à virer ou pas les gens dans le réseau.
Alors, Moi, j'ai pas de solution idéale. Et effectivement, je suis très embêté parce que la liberté d'expression, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va en parler encore toute cette année. Hein. Le sujet ne sera pas terminé parce que clairement, il y a encore d'autres trucs. On n'a même pas abordé parler. Un réseau social d'extrême droite qui s'est fait planter, et ça fait plaisir quand même, on a un gros sourire quand on a entendu l'histoire.
C'est ça, ils se sont fait pirater, et du coup, toutes les données ont été récupérées, avec toutes les communications, toutes les discussions qu'il y a eu, qui vont probablement être rendues publiques.
Ça peut être drôle, même si ça reste embêtant, mais de toute façon, c'est des sujets qui sont pas simples.
En tout cas, la période est intéressante, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite.
Bon allez, à la semaine prochaine.
Oui, salut.